Chapitre 16. Le coup de fil arriva alors qu'ils étaient attablés pour le petit déjeuner. Alex décrocha. Assis l'un en face de l'autre dans la cuisine, ils faisaient comme si c'était un matin comme les autres. Bien sûr qu'ils avaient passé une bonne nuit, certains d'être en sécurité chez eux. Ils n'avaient pas sursauté en entendant des bruits inattendus. Ils ne s'étaient même pas relevés une seule fois pour vérifier que la porte était fermée à clé, l'alarme branchée, le Glock 10 d'Alex dans le tiroir de la table de chevet. Ils étaient des professionnels. Pas leur genre de s'effondrer à l'idée qu'un tueur avait rôdé dans leur chambre pour leur apporter les mêmes présents qu'à chacune de ses victimes. À 2 heures du matin, Didi avait dit en contemplant le plafond « On devrait lui donner un petit nom. Tu sais, comme à Melvin. »
« Tu veux donner un nom à l'individu qui s'est introduit chez nous ?»«
Bien sûr, j'en ai aussi plein le dos de lui, ou d'elle. Tu vois, même son sexe, on ne le connaît pas. Et dire tout le temps « il » ou « elle », ça me gonfle vraiment. Il faut donner un nom à notre intrus. Peut-être que, comme Melvin, il deviendra plus gérable. » Alex garda le silence un instant.
« Je vote pour Bob. »
« Comme Bob l'éponge ?» Tu veux donner à notre meurtrier le nom du personnage de dessin animé préféré de Jack ?
Oui. Bob, c'est un nom de mec dézingable. Le premier venu serait capable de liquider un Bob.
À 2h05, Didi s'était fait sa propre idée. Et Pat ? Tout aussi dézingable, mais pour respecter la vérité de notre enquête, androgyne. Bob, ça sous-entendrait une information que nous ne possédons pas encore.
Pat. Comme dans les sketchs de Saturday Night Live, dit Alex d'un air songeur.
Ça me va.
Adjugé. Melvin, je te présente Pat. Pat, je te présente Melvin. Et maintenant, barrez-vous, tous les deux. Alex lui avait pris la main. Et ils avaient poursuivi leur veille silencieuse, allongés côte à côte dans la pénombre de leur chambre, en regardant le plafond muet, en s'effleurant les doigts. Il était à présent près de 8 heures du matin. Le téléphone sonna. Alex décrocha, et un instant plus tard, tendit le combiné à Didi.
« Nous avons l'autorisation d'interroger Chanadé, »
dit Phil sans préambule. « Quand ?»«
9 heures pile. »«
Où ?»«
À la prison. »«
Qui ?»«
Sa sœur doit être présente. Chana l'exige. Et un enquêteur. »«
Pas Neil, » dit immédiatement Didi.
« Ben tiens. » Pour qu'elle nous le mange tout cru, je m'en charge.
Tu vas jouer la figure paternelle bienveillante ?
J'improviserai au fur et à mesure.
Phil hésita.
Ça devrait être toi,
dit-il.
Ne va pas t'imaginer que je ne le sais pas.
Ça devrait être moi, convint Didi. Et le coup du papa bienveillant, ça ne marchera pas. Dans son monde, se montrer compréhensif est un signe de faiblesse, et elle tue de préférence des hommes.
J'ai demandé à Organ.
Je suis suspendue. Je ne peux pas, je le sais.
Mais est-ce que tu viendrais quand même ? Il paraît que la salle d'interrogatoire a une fenêtre d'observation. Tu ne pourras pas entrer, mais rien ne t'interdit de regarder.
Vendu. Tu as lu son dossier ?
Je suis en train de le ressortir.
Ne te donne pas cette peine. J'ai passé une bonne partie de la nuit à me renseigner sur elle et sur ce cher Harry Day. Crois-moi, il n'y a qu'une seule chose dont tu doives te souvenir.
À savoir ?
Que le sang est une preuve d'amour. Et en tant que figure paternelle, tu vas devoir lui prouver que tu l'aimes vraiment beaucoup. Alex l'aida à prendre sa douche et à s'habiller. À sa grande surprise, elle avait le trac. Ses mains tremblaient. Et une fois n'est pas coutume, c'était à peine si sa douleur au bras et à l'épaule se faisait sentir. Alex l'aida à passer sa main dans sa manche. Elle grimaça, et lorsque le chemisier en soie fut enfilé, Alex le boutonna.
« Note que je préfère de beaucoup te l'enlever, »
commenta-t-il.
« Là, je force vraiment ma nature. »
Elle sourit, mais elle avait encore la tête ailleurs.
« Ce n'est qu'une meurtrière comme les autres, Didi. » Combien en as-tu interrogé dans ta carrière ?
Des dizaines.
Voilà. et celle-ci est derrière les barreaux, donc elle n'est même pas spécialement douée. Elle avait 14 ans. Elle n'était ni assez mûre ni assez prévoyante pour assurer ses arrières. C'est une meurtrière comme les autres, répéta-t-il. Elle hocha la tête, mais ils voyaient tous les deux que ça ne prenait pas. Puis Phil arriva, l'air encore plus azimuté qu'elle. Et Alex secoua la tête. C'est vous, les enquêteurs, leur rappela-t-il. Vous êtes plus intelligents, plus expérimentés et incontestablement plus compétents. Allez, filez et découvrez ce que vous avez besoin de savoir pour dézinguer Pat. Pat ? S'étonna Phil.
C'est une longue histoire, répondit Didi.
Parfait, dit-il avec fébrilité. C'est exactement ce qu'il me faut.
Adeline les attendait dans le hall de la prison. Elle portait une tenue professionnelle, pantalon marron foncé, pull en cachemire bleu, plus psychiatre bien établi que sœur aimante, remarqua Didi. Se cuirassait-elle pour une conversation qui promettait d'être des plus intéressantes? Le docteur vint à leur rencontre. Elle leur expliqua les procédures carcérales. Bijoux, sacs, écharpes et accessoires devaient être déposés dans des casiers. Phil y laissa également son pistolet. Même les membres du personnel pénitentiaire n'étaient pas autorisés à porter une arme à feu. Ceci pour éviter qu'une détenue ne s'en empare et ne la retourne contre eux. Didi remarqua qu'Adeline gardait son bracelet médical sur elle. Encore une concession à sa maladie, se dit-elle. En cas d'urgence, toute personne lui portant secours devait être avertie que la patiente était insensible à la douleur et n'était donc pas en capacité de juger de son état. Et il y avait ce fameux risque de coup de chaleur, si Adeline s'effondrait en public par une journée de canicule. Didi se demanda combien de fois par jour on l'interrogeait sur ce bracelet et sur sa signification, et si Adeline répondait volontiers et honnêtement à ses questions. Le temps qu'ils se dépouillent de tous leurs effets personnels, une superbe femme noire arrivait. Adeline leur présenta la directrice, Kim McKinnon. Celle-ci leur fit passer les contrôles de sécurité et les conduisit au bout d'un couloir étroit où, dit-elle, Shana les attendait déjà bien au chaud dans la salle d'interrogatoire. Elle est encore en convalescence après l'épisode d'hier, leur expliqua-t-elle avec vivacité en remontant d'un bon pas le long couloir blanc sale. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle se fatigue vite. Je vous conseille d'aller droit au but tant qu'elle est encore en état de répondre à vos questions.
Elle s'est mutilée ?
Demanda Didi. La directrice confirma d'un signe de tête.
Tentative de suicide sérieuse ?
Plutôt. À quelques minutes près, elle y restait.
Elle avait déjà fait ça ?
Shana souffre d'une sévère dépression accompagnée d'un trouble de la personnalité antisociale. En résumé, ce n'est pas seulement qu'elle ne peut pas vous sentir, elle ne peut pas se sentir non plus.
Charmant, dit Didi.
Et depuis combien de temps la connaissez-vous ?
Depuis que j'ai pris la direction de l'établissement, il y a 10 ans.
Vous pensez pouvoir la contrôler ? Demanda Didi avec curiosité. La directrice haussa un sourcil à la courbure élégante.
Quiconque pense pouvoir contrôler Shana D se fourre le doigt dans l'œil. Cette femme est trop intelligente pour son propre bien et elle s'ennuie trop pour le bien des autres.
On dirait que vous éprouvez un certain respect pour elle. La directrice sembla étudier la question.
Shana est incarcérée depuis ses 14 ans, finit-elle par répondre. Elle n'a vécu que le premier tiers de sa vie en dehors de ses murs. Disons simplement que je dirige la prison, mais que c'est Shana, la spécialiste. Avec elle, je m'attends à tout. Résultat, aucun surveillant n'est mort depuis que je suis aux manettes.
La directrice avait prononcé cette dernière phrase sans émotion. Subtil rappel de ce dont Shana était capable. À ses côtés, Phil fut repris d'un tic nerveux. Ils arrivèrent à destination, une vitre qui donnait sur une pièce plongée dans l'obscurité. Tous s'arrêtèrent. Phil triturait une petite peau sur son pouce gauche, et Adeline regardait droit devant elle, le visage impénétrable. Elle ne voulait rien laisser paraître, se dit Didi. Quelles que fussent les pensées, les sentiments, les émotions qui agitaient le docteur au moment d'interroger sa sœur au sujet de deux meurtres récents,
elle les enfermait soigneusement dans une boîte pour les mettre de côté. La salle d'interrogatoire était équipée d'un système audio. La directrice aida Phil à fixer l'oreillette qui leur permettrait de communiquer avec lui. Quand le système serait en marche, elle pourrait également entendre tout ce qui se dirait dans la petite pièce de 10 mètres carrés. Phil et Adeline entreraient dans la salle. Didi et la directrice resteraient de l'autre côté du miroir sans teint pour observer. Shana aurait eu droit à la présence de son avocat, mais elle avait décliné. La directrice lança un regard à Adeline, qui se tenait légèrement à l'écart, puis toisa Phil. Prêt ? Lui demanda-t-elle.
Pas de problème.
Si vous avez besoin de souffler, il vous suffit de sortir de la salle. N'oubliez pas que vous êtes libre de vos mouvements. C'est elle qui est obligée de rester assise là. Ces paroles d'encouragement produisirent l'effet escompté. Phil se redressa et hocha la tête en signe d'assentiment. La directrice actionna un interrupteur pour allumer dans la pièce. Shana Day apparut, en combinaison orange de détenue, assise à une petite table, ses mains liées posées sur le plateau. La prisonnière leva lentement la tête lorsque Adeline ouvrit la porte et précéda Phil dans la pièce.